Okay, we continue. For those of you interested, I will give you the equations of the CAPM. Because Mario, you asked me, are there securities that do have the same behavior? And the answer is yes, plenty. So this is not something important for the course. I will not ask you anything about the CAPM, but let me give you the fundamental equations. Fundamental equations of the CAPM. In a theoretical market, all securities satisfy the following equations. Take a security S, its profitability viewed as a random variable, profitability in the experiment wait 1 year, is equal to the profitability of treasury bonds, R0, also called RTB, plus the difference between the profitability of the market itself, the whole market, minus R0, multiplied by a factor called beta, that is that depends upon the security S, plus an extra term, an extra random term that depends upon S. That is the fundamental equation of the CAPM. It has some other form. If you take the expectation, you have little r of S equal little r of 0, that is the risk-free, the risk of government bonds, multiplied by a coefficient beta times the profitability of the market itself, plus 0. And the variance, sigma S square, is equal to beta square times the variance of the market itself, plus an extra term, which is the variance of epsilon of S. Those of you interested in the math of finance, these are the equations. We shall not use these equations. We don't care. It's a bit more advanced than our course, and on top of that, it doesn't work very well. But a given security, say Bristol-Myers or Genentech or whatever, will have a certain beta, which is a sensitivity with respect to the market. So this term, which is the profitability of the market minus the profitability of risk-free bond, is an important term. You multiply it by a sensitivity factor and you add that. Typically, the beta of the market itself is 1. And there are some securities that have the sensitivity of the market, some securities which are more sensitive than the market. When the market tends to be good, they tend to be very good. And there are securities which are less sensitive than the market, the least sensitive being the treasury bonds, or which are called zero, and they have zero sensitivity. They have a fixed profitability. So the idea of the CAPM is that securities go from zero variability to very high variability. The math are nice, but as I said, it's totally powerless to explain what's going on right now in the stock market. Totally powerless. But if you hear about the betas, it refers to the sensitivity of stocks. Stocks of high-tech technology firms have a high sensitivity. They are very reactive to good news, more than the market itself. And on the other hand, securities of very steady firms like electric utilities, for instance, have a beta less than the market. And there are some consequences to these equations, mostly that it's useless to try to invest into well-picked or selected securities. It's enough to invest into the market, plus combination of market and treasury bonds. These are consequences. So that's what I have to say on that, and now we shall apply for ourselves this equation. We shall apply this equation, which is the very first step toward this type of things. Can I erase? You will find those in on a site called lapasserelle/finance/finance. You can find that here. lapasserelle/finance. And then you have a... You have some explanation there. So hopefully, with this review of the origin of this equation, it will make more sense to discount. So applications of the fundamental equation of finance, which for me, once again, is this equation, P of T equal E of Y divided by 1 plus R of S. So I need two people, Mathilde Bousquet and Fanny, I will change, and Charlotte Lécuyer. So you have a security S, the price today is 75. The expected value of the price, of the value in 1 year is 120. There is a certain sigma, And then you have a T with E of Y equal 90, same risk pattern as S. What should be the price of T? That is typically an exercise of final exam, a simple one. Oui, tout à fait. L'exercice vous dit que T et S, oui, c'est petit r, si ça ne vous ennuie pas. Je fais une distinction entre grand R et petit r. Grand R, c'est quand je parle de la variable aléatoire elle-même, petit r, quand je parle de sa moyenne. Et là, on parle de sa moyenne. Petit r, s'il vous plaît. Je voudrais que vous écriviez petit r et non pas grand r. J'ai écrit grand r pour les équations, mais c'était autre chose. Ouais. Non, mais petit r de s, non, mais n'essayez pas. Attendez, il faut faire deux étapes. Ça, là, vous essayez déjà la deuxième étape. La première étape, c'est que vous calculiez la profitabilité de s. Vous avez les chiffres au tableau. Non, ça, vous n'utilisez pas encore cette équation. Cette équation, c'est après. D'abord, pour calculer petit r de S, bah, vous regardez son prix aujourd'hui et ce que ça vous rapporte dans un an. Vous avez quelque chose que vous payez aujourd'hui 75 et en moyenne dans un an ça vous rapporte 120. Ouais, d'accord, mais enfin là on travaille. Oui, vous avez raison, mais avec des ratios. D'abord, c'est oui, mais la profitabilité c'est 45 divisé par le prix initial. Donc c'est 120 moins 75 divisé par 75. Vous me suivez? Donc ça c'est petit r de S, c'est l'étape numéro 1. Vous avez une calculette là si vous voulez à côté de ma montre. Oui, c'est ça par là, oui. Donc la première étape, c'est de calculer effectivement la profitabilité de S. Alors vous obtenez 0,6, très bien. Et maintenant, vous pouvez en déduire quel est le prix pour T. Comment ? Oui, P de S, oui, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Ici, j'ai écrit P de C, mais je voulais dire P de S. C'est-à-dire que, en essayant d'utiliser des notations propres, c'est plus compliqué et c'est plus rigoureux. Parfois, pour moi, c'est plus simple, et parfois, il y a des gens pour qui c'est finalement source de plus de confusion. Et personnellement, quand on utilise à tort et à travers les notations, pour moi, ça fait plus de confusion. Donc, je cherche à distinguer une sécurité, sa variable aléatoire l'année suivante, et je distingue encore les valeurs possibles, les outcomes, etc. Donc, vous trouvez un P de T à 56. Donc, si P vaut 56, tout est normal. Si P vaut plus que 56, personne n'achètera. Parce que vous pouvez, à un facteur près, avoir une profitabilité plus forte. Vous comprenez? Supposons que P vaille 100. Ce serait absurde d'ailleurs. P égale 100, ce n'est pas possible. Parce que vous n'allez jamais payer 100 pour quelque chose qui, en moyenne, vous rapporte 90 l'année suivante. Vous me suivez? Mais supposons que P vaille 80, par exemple. S'il a la même forme de risque que S, c'est absurde de payer 80 pour T. Et s'il a la même forme de risque que S, il faut que ce soit 56. Si c'est moins que 56, vous êtes très contente, et si c'est plus, vous ne l'achetez pas. Ok, merci beaucoup. Bon, ça, c'est la première application. Donc, le bon prix pour T, c'est... Enfin, je n'ai pas vérifié vos calculs, mais enfin, je vous crois... ...90 divisé par 1,6, c'est-à-dire 56,25, c'est tout à fait correct. Chut. Je peux effacer ? Bon, maintenant, on va en prendre... une autre S, je vais mettre P de S égale 103, E de X est égal 125. Et vous avez noté que je vous avais dit que S se comportait de la même manière que T, mais je n'ai pas eu besoin de vous donner le sigma de X tout à l'heure. On ne l'a pas utilisé, d'accord ? À partir du moment où je vous dis que j'aurais pu fabriquer un exercice où on l'avait, et on avait aussi celui de Y, etc., et on vérifiait que, mais là, on va de nouveau pas l'utiliser. Maintenant, on a un investissement I, d'accord. Qui coûte 80. Qui rapporte 40, 40 et 40. Donc je passe à l'étape suivante où maintenant on va s'intéresser à un investissement physique. Un investissement physique, c'est-à-dire Typiquement, vous achetez une nouvelle machine, ça vous coûte 80 millions d'euros, et cette nouvelle machine, elle va vous faire un surcroît de revenus par rapport à ne pas l'acheter de 40, 40 et 40, et puis ensuite tout est pareil qu'avant. D'accord ? Exemple, 80 millions d'euros égale prix d'une nouvelle machine, et puis 40, 40 et 40 millions d'euros, c'est surcroît de cash flow par rapport à ne pas acheter la machine. Ah, c'est toi, c'est moi. Bien, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un investissement intéressant ou pas? Alors, vous vous rappelez qu'un investissement, il y a deux taux très importants attachés à n'importe quel investissement. Il y en a un, c'est un taux externe, et il y en a un autre, c'est un taux interne. On a déjà vu ça ensemble, n'est-ce pas? Le taux externe, c'est la profitabilité de quelque chose qui a le même risque. Taux externe, qu'on a appelé the opportunity cost of capital, c'est profitabilité de quelque chose dans la même classe de risque. Et on a aussi parlé d'un taux interne, que j'ai appelé d'ailleurs le IRR, et qu'on révisera plus tard aujourd'hui. C'est très important que vous vous rappeliez de ça. Pour n'importe quel investissement, il y a deux taux importants. Un taux externe qui s'appelle the opportunity cost of capital. Opportunity cost of capital, qui est la profitabilité d'une sécurité dans la même classe de risque. Alors évidemment, là je ne vous explique pas les maths pour la même classe de risque, c'est un peu fuligineux d'ailleurs la théorie. Et puis, il y a un taux interne dont on parlera un peu plus tout à l'heure. La première question qui va se poser, très précisément à Jean-Charles Delain et Julie Hasbrook, c'est est-ce que I est un investissement intéressant ou pas ? Jean-Charles Delain, oui. Vous venez au tableau, et Julie Hasbrook aussi. Alors d'abord, il y a une question qui se pose, quelle est la classe de risque de I? D'accord? Pour analyser un investissement, vous avez besoin de connaître sa classe de risque. Alors sa classe de risque, je vous donne la réponse, c'est S. I est dans la même classe de risque que S. Alors, est-ce que I est un investissement intéressant ou pas? Il faut appliquer l'équation qu'il y a là-haut, mais un petit peu raffinée, sur 3 années. Comment? D'abord, vous calculez le RS, absolument. Donc, dans un petit coin, vous calculez RS, petit r de S. Quelle est la profitabilité de S? Non, petit r, s'il vous plaît. J'utilise grand R quand je parle de la variable aléatoire, profitabilité. Mais quand je parle de sa moyenne, j'utilise petit R. Enfin, c'est comme tout le monde, quoi, pour être précis. Non, attendez, j'ai changé. Non, je vois pas tout bien votre 120 et 103. Non. S, c'est là-haut. S, c'est 125 moins 103. Divisé par 103.
fait combien ça? Ouais, c'est logique, c'est à peu près ça.
Ah, d'accord. Bah, si c'était 100, ça ferait 25%. Et donc, ça fait. On enlève 3, enfin, à peu près. Donc, c'est à peu près 22, 20.
Ça doit être un tout petit peu plus que 21. Je sais pas, j'ai ça au pif. 125 moins 103 divisé par 103. Ouais, c'est ça.
Bon, alors attendez. Donc maintenant, on va faire ça sérieusement. Je veux dire par là, en expliquant bien, bien, bien ce que vous faites. On va s'intéresser à. Ça, c'est parfait. Moi, j'aimerais bien que vous écriviez petit r. Ben non, c'est pas un petit r. Il a beau être très, très petit, c'est quand même un r majuscule. Alors, en français, ça, c'est un petit r et ça, c'est un grand r. C'est comme ça, mais c'est bizarre. Vous allez calculer la valeur présente du premier cash flow, du premier cash flow futur. Ensuite, vous allez calculer valeur présente du deuxième, et puis ensuite valeur présente du troisième. Donc, quelle est la valeur présente du premier cash flow futur de l'investissement? Alors, quel est le premier cash flow futur de l'investissement là? Comment? Voilà, absolument. Donc, ce 40, c'est une promesse, d'une manière ou d'une autre, de recevoir 40 dans un an. Techniquement, c'est la valeur moyenne d'un cash flow aléatoire, etc. Quelle est sa valeur présente? Vous utilisez l'équation de discount que vous avez là-haut. Non, vous pouvez utiliser le tableau papier si vous voulez. Alors, on l'appelle PV, for present value of C1. Present value of C1, that's the way you write that down. Attendez. Donc, on a R de S égale 0,213. On va s'intéresser à PV of C1, because that one is called C1. That's C1, C2, C3. Ensuite, on va s'intéresser à PV of C2, and finally, PV of C3. Alors, vous avez quelque chose qui, dans un an, va valoir 40. C'est le E de Y. 40, c'est le E de Y. Eh bien, vous écrivez PV de C1 égale, si vous voulez, 40, ça a une valeur aujourd'hui. Une promesse de recevoir 40 dans un an, ça a une valeur aujourd'hui. Donc, vous divisez par 1 plus R de S. C'est ça la finance. Vous avez dans la poche une promesse de recevoir dans l'avenir une somme. Cette promesse, elle a une valeur aujourd'hui. Cette valeur, on la calcule à l'aide du discount. Oui, c'est ça. Ici, c'est le E de Y, oui. C'est-à-dire que C1, si vous voulez, c'est une première variable aléatoire. Enfin, là, je mélange la variable aléatoire et sa moyenne. Donc, 40 divisé par 1 plus 0,2113, enfin, 0,2113. Bon, très bien. Très bien. Alors, une autre équipe, merci. Merci, vous deux. Va continuer. Guillaume Duclerroy et Joël Griffot. Vous calculez la valeur présente du deuxième cash flow. Alors, oui. Alors, quand on discount sur 2 années, vous vous rappelez, voilà, le dénominateur est au carré. Excellent. Bon, là, il se trouve que c'est le même numérateur parce que j'ai mis des cash flows identiques. Je vous en prie, bien sûr. Si vous pouvez écrire avec cela sur le tableau papier,
ça écrit plutôt mieux.
Bon, ça, c'est vraiment des exercices typiques de l'examen final. Tout à fait typique, c'est le cœur de discounting. Et rappelez-vous, pour comprendre d'où vient le discounting, il faut que vous pensiez à ces deux pièces dans un casino. À partir du moment où les jeux qu'on vous propose sont les mêmes, à un facteur près, il faut qu'ils aient les mêmes prix, à un facteur près. Si les jeux sont les mêmes, du point de vue du risque que vous prenez, il faut que ça vous apporte la même profitabilité. Et ben c'est pareil à la bourse, et c'est pareil dans les investissements, et ça a pour conséquence ce type de discounting. Alors vous avez 27, quelque chose ? D'accord. Puisque vous êtes là, faites la troisième valeur présente et dites-nous si l'investissement est un investissement digne d'intérêt ou pas. Parfait. Il n'y en a pas. c'est une calculette à manivelle. Vous savez, la technologie, ça est allé vite. Moi, quand j'avais votre âge, j'avais une machine à calculer électrique. Et même auparavant, j'en avais une à manivelle, d'ailleurs. Un gros machin qui pesait 10 kilos et qui se grippait tout le temps comme une mauvaise Kalachnikov. Et mon arrière-grand-père, il avait une machine à calculer qui était exactement le modèle de Pascal. Et pour multiplier, on déplaçait un truc qui ressemblait à une machine à tricoter, on le déplaçait d'une unité, ça faisait, et puis on tournait quelque chose et ça faisait les calculs avec 10 fois, et ensuite les calculs avec 100 fois. Donc imaginez un peu ce qu'auront vos mômes. Alors vous avez... non, ça ne me paraît pas possible ça, il y a des erreurs de calcul. Parce que le 32, j'y crois. Mais on passe de 27 à 26,9. Tout le monde est d'accord avec le 27,19 pour la valeur présente du deuxième? Oui? Et le troisième, on enlève en gros 20%, ça fait dans les 22 forcément. 21, non? Ah ben voilà, ouais. Alors, est-ce que l'ensemble est un... Bon, donc on vous propose de dépenser 80 millions. Attention, non, n'écrivez pas avec celui-là là-dessus. Ou alors vous décrivez que des choses justes. Donc on vous propose aujourd'hui de dépenser 80 millions et de récupérer avec ce type de risque 40, 40 et 40. Vous pouvez effacer des choses pour vous effacer donc des choses. Donc PV, vous avez... Oui, effacez ce qui... Prenez de la place là où vous voulez. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 80 aujourd'hui pour recevoir 40, 40 et 40, c'est-à-dire ramener à des valeurs aujourd'hui 32, 27 et 22 par là. Ouais, c'est légèrement positif. Ouais. Donc en théorie, vous échangez quelque chose par autre chose qui a un peu plus de valeur. Donc, vous créez de la valeur immédiatement. Immédiatement. Ça, c'est un truc qui est à la fois difficile à comprendre et voire même contestable d'ailleurs. Que, très bien, je suis d'accord avec vous, ça me paraît correct, ouais. Bon, c'est un investissement qui crée une valeur nette présente, valeur actualisée nette, c'est ça le terme français, de quelques. C'est pas terrible, mais enfin, ça crée de la valeur. Alors, ça veut dire quoi créer de la valeur immédiatement ? Parce qu'il faut bien que vous compreniez, merci, merci messieurs, que ce type d'investissement, il ne crée pas de la valeur dans l'avenir, il crée de la valeur aujourd'hui même. Aujourd'hui même. D'accord. Bon, je vous crois, je n'ai pas fait les calculs moi-même. C'est d'accord ? Donc, une idée un peu difficile à saisir, et d'ailleurs qu'on peut contester, mais non, ça, enfin, qu'on peut débattre précisément, c'est que ça ne crée pas de la valeur dans l'avenir, mais dans l'avenir, ça va créer 40, 40 et 40, qui sont d'ailleurs des moyennes entre nous. Mais ça crée aujourd'hui 2,4. Alors, ça consiste en quoi ? Ben, si aujourd'hui même, vous dépensez 100 euros, aujourd'hui même, pour acheter à un copain un bout de papier sur lequel il s'engage à payer je ne sais pas quoi, et que ce bout de papier, manifestement, vous allez pouvoir le vendre demain 150 euros. Ben, vous créez immédiatement 50 euros de valeur. Si vous achetez aujourd'hui même, pour 100 euros, quelque chose qui aujourd'hui même vaut 150 euros, et par définition, vous créez aujourd'hui même 50 euros de valeur. Eh bien, en finance, un investissement de ce type qui a un NPV positif, il faudrait écrire NPV, ce serait la façon de voir, Net Present Value, un investissement qui a un NPV positif, c'est un investissement qui crée de la valeur immédiatement. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce point de vue qui est issu de la théorie standard financière, il n'est pas dénué de défauts, même s'il est assez intéressant. Il n'est pas dénué de défauts parce qu'il a tendance à pousser la planète entière à faire moins d'investissements et plus d'investissements, moins d'investissements physiques et plus d'investissements financiers, pour 36 raisons. Et donc, il y a pas mal de pays qui sont devenus des pays où l'activité financière est prédominante, c'est le cas des États-Unis d'ailleurs, et c'est très instable. Oui. Comment ? C'est de la déduction. C'est-à-dire que là, c'est un exercice fabriqué au tableau, mais quand vous serez, certains d'entre vous, des cadres dans des entreprises en charge de gérer des investissements, avec des projets d'investissement, vous serez responsable de la ligne de production de shampoing Head & Shoulders et vous envisagerez de remplacer les injections de pipi par les injections de je ne sais pas quoi, et que ça coûtera tant de millions de dollars, eh bien vous devrez présenter à votre direction des calculs financiers en montrant que avec l'investissement dans des nouvelles machines, vous augmenterez la productivité de telle sorte que le surcroît de cash flow à venir par rapport à l'option ne pas faire l'investissement à ce genre de chiffres, vous proposerez un taux de discount où il y a encore là aussi des recettes et vous montrerez que c'est un bon investissement et votre direction décidera ou non de vous suivre. Donc, ce type de calculs sont faits tous les jours dans les entreprises. Tous les jours dans les entreprises, d'accord ? C'est l'évaluation des investissements ici. Il s'agit de ce que je m'appelle un investissement physique. Donc, je vous rappelle que je vous ai présenté deux types d'investissements. Ils s'analysent de la même manière. Il y a des investissements purement financiers et il y a des investissements physiques. Les investissements purement financiers, ce sont ceux qui n'ont aucune synergie avec votre activité. Ça s'appelle des investissements financiers. Les investissements physiques, ce sont ceux qui ont une synergie avec vos activités. Oui. Oui, il y en a plein, simplement on les élimine. Oui. Oui. Alors ça arrive que effectivement. Qui est des investissements, il y a des grosses erreurs de calcul. Ça arrive. Des erreurs de calcul ou souvent plutôt des erreurs de raisonnement. Maintenant, il faut bien comprendre que une NPV négative, c'est un résultat où la somme de ces trois choses est moins que ceci. Mais au fur et à mesure, je voudrais votre attention, s'il vous plaît, au fur et à mesure que le temps passe, ces cash flows, ça ne va plus être des variables aléatoires, ça va être des outcomes. D'accord ? on peut très bien se trouver dans le cas de figure où l'outcome de celui-ci, ça va être en fait 38, celui-là, ça va être 25, et celui-là, ça va être 20. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je voudrais plutôt... Oui. Bon, d'ailleurs, ça fait plus que 80. Mais néanmoins, il y aurait, si on faisait un calcul rétrospectif, ça ferait, si vous discountez ces chiffres rouges, ça fait moins que 80. Mais ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'analyser un NPV rétrospectivement, il faut faire attention à ce que l'on fait. Il ne faut pas confondre une variable aléatoire et un outcome. Vous me suivez ? Je prends le cas du casino, la pièce numéro 1 par exemple. Vous vous rappelez, on paye 2 euros et puis on joue. Et on tire le dé et hop, on est payé ce que le dé montre. Bon. Eh bien, vous pouvez très bien entrer dans ce casino et puis trois fois de suite perdre de l'argent. Hein? Premier coup, ça vous tire à un as, le deuxième coup, vous tirez à deux, le troisième coup, vous tirez à un as. Enfin, vous sortez de votre casino, si vous avez joué trois fois, vous avez perdu de l'argent. Ça ne change rien au fait que ça avait un NPV tout à fait positif. Vous êtes d'accord? Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous avez perdu de l'argent trois fois dans ce casino que c'était un mauvais jeu. Sauf si vous êtes en mesure de démontrer qu'en réalité, l'idée était pipée. Vous me suivez ? Donc, il faut faire attention au raisonnement probable, au raisonnement qu'il faut intervenir, la probabilité. Une fois que l'avenir s'est déroulé, c'est difficile de lui faire infirmer les hypothèses qu'on avait faites. Je cherche à répondre à votre question. Est-ce qu'il y a des investissements avec un NPV négatif ? D'abord, c'est pas en attendant dans l'avenir qu'on le saura. Parce qu'en attendant que le temps se déroule, on voit simplement les outcomes des cash flows. Mais les outcomes des cash flows, ils disent pas grand-chose sur les variables aléatoires elles-mêmes. D'accord ? Mais il y existe des cas de figure, même célèbres, j'ai oublié les données précises, d'investissement où il y a eu des grosses fautes de raisonnement. Il y a le cas de Lockheed qui s'était gouré par 1 milliard sur un investissement de 1 milliard. Vous trouverez ça dans un livre de Brealey and Myers, ici, ce machin-là. J'ai oublié les détails. Enfin, en théorie, il s'agit là d'un modèle. Alors, on peut très bien se tromper dans l'application du modèle. Mais à partir du moment où vous avez fait le calcul et que le NPV est négatif, en général, les entreprises ne font pas l'investissement. Bon, il y a quand même des cas de figure où les entreprises font malgré tout l'investissement. Pour 36 raisons, parce que le modèle est contesté par la direction générale, parce qu'il y a d'autres raisons stratégiques pour faire l'investissement, parce qu'en fait il y a des synergies, des tas de trucs que les financiers n'ont pas pris en compte. Vous savez, si vous faisiez un calcul d'investissement de remplacer Notre-Dame par un parking, ce serait un NPV positif. Hein. Et non, on ne le fait pas. Ou à l'inverse, conserver Notre-Dame, en d'autres termes, c'est d'une certaine manière un NPV négatif et pourtant on le garde. Donc les calculs financiers ont des limites. Il ne faut pas s'exciter trop fort avec les calculs financiers. Il faut savoir les faire. Il faut comprendre d'où vient ça. C'est pour ça que ce matin, je réfléchissais en prenant le train, que j'allais vous expliquer les histoires de pièces dans un casino, où il y a les mêmes jeux et pas les mêmes prix. Ben, c'est pas possible. De la même manière, quand vous avez des securities S&T qui sont les mêmes, à un facteur, à un rescaling près, en termes de type de profit de risque, ben forcément, il faut qu'elles aient les mêmes prix. Parce que ça, c'est une loi du marché depuis que le monde est monde. Sur un marché, les produits identiques ont essentiellement les mêmes prix. Je me dirais, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Si vous allez au marché, vous pouvez trouver des salades à 1 euro et d'autres à 1,20 €. Les vendeurs vous diront que c'est pas tout à fait les prix. Vous achetez un peu plus de garantie, faites des choses comme ça. Et des choses identiques, elles ont les mêmes prix. Et bien c'est vrai aussi pour des choses aléatoires. Et ça, c'est un peu plus difficile à comprendre. Parce que dans la mesure où c'est aléatoire, les résultats vont être variables. Donc jouer au dé, dans la pièce numéro 1 ou dans la pièce numéro 2, c'est le même jeu. Et pourtant, pourtant, vous savez bien qu'on va avoir des séries différentes. Néanmoins, il faut payer le même prix, sinon il y a un des jeux où personne n'ira. Voilà, c'est à peu près le raisonnement fondamental qui est derrière cette équation, qui, somme toute, est assez simple, et qu'on a appliqué d'une part d'abord à l'exercice précédent à simplement deux securities d'un an, et là on vient d'appliquer à un investissement. Alors, on va continuer avec d'autres choses. Donc, je vous ai expliqué que quand vous avez un investissement, essentiellement, les investissements les plus intéressants pour vous, en tant que futur cadre dans des entreprises de production, certains d'entre vous en tout cas, c'est les investissements physiques. C'est-à-dire, vous investissez dans des bâtiments, des infrastructures, des machines, des stocks, etc. Et vous regardez si ça vaut le coup. Vous regardez si ça vaut le coup essentiellement en faisant des calculs sur les cash flows, les positions, extra cash flows que ça va produire par rapport à l'option de ne pas faire l'investissement. Vous faites un discount avec des taux de discount qui sont la classe de risque de l'investissement. Et là, en général, on prend la moyenne de la rentabilité des capitaux engagés dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on travaille. La théorie dit des choses comparables. Donc, on va faire un deuxième exercice de style. Chaque investissement, non, un investissement sur plusieurs années, il y a deux taux importants qui le concernent. Un qui est externe, c'est la profitabilité de choses dans la même classe de risque, et c'est un peu pifométrique de sortir. La théorie raconte des choses. Et puis il y a le taux de retour interne qui est la généralisation de la profitabilité. C'est très important, je vous ai expliqué ça déjà. Alors, quand on a le cas de simplement un investissement comme ceci, 72 créé 83. Bon, voilà, il y a une profitabilité qui est très simple à calculer, R égale 83 moins 72 divisé par 72, d'accord? Donc ici, il y a une profitabilité. 83 moins 72, ça fait 11 divisé par 72. Ça fait 15,3%. Mais quand vous avez un investissement comme celui-ci, 510, 230, 250 et 120, et puis c'est tout, il n'y a pas de notion de profitabilité. Enfin, en tout cas, pas direct. Il n'y a pas un calcul simple comme celui-ci. Pas possible. D'accord? Mais il y a un IRR. IRR, alors comment on l'a défini, l'IRR? Comme vous dites, Joël, c'est le taux de discount qui met le NPV à zéro. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans le cas supérieur, si on veut utiliser un marteau piqueur pour enfoncer une punaise, eh bien, il se trouve que ça, c'est le taux de discount tel que NPV égale 0. C'est un fait. Dans le cas d'un investissement qui crache un cash flow au bout d'un an, ça paraît ridicule de parler de calculer un NPV et tout, c'est sûr. Parce que qu'est-ce que c'est quoi le NPV ici? Ben, c'est un R tel que moins 72 plus 83 divisé par 1 plus R égale 0. D'accord? Ça, c'est l'équation qui est pour obtenir NPV égale 0. Alors, ça donne quoi? Eh bien, on va d'ailleurs l'appeler moins C0 plus C1. Alors, ça fait quoi? Ça fait moins 72 fois 1 plus R plus 83 égale 1 plus R.
égale 0, ce qu'il raconte. Donc, ça fait moins 72 plus R fois 72 plus 83 égale 0. Ça fait donc 83 moins 72 égale R fois 72. Ça fait donc R égale 83 moins 72 divisé par 72. D'accord ? Donc, en d'autres termes, dans le cas d'un discount sur un an, la bonne vieille profitabilité que tout le monde connaît, il se trouve que c'est aussi le R qui rend LPV égal 0. Alors, comme ici, dans ce cas maintenant, dans le cas de plusieurs années, several years, dans le cas de plusieurs années, on ne peut plus appliquer simplement l'équation du type quelque chose moins le prix initial divisé par le prix initial, et bien on utilise comme définition le fait que c'est aussi. On va définir la profitabilité généralisée comme étant ce qui annule le LPV. C'est une procédure tout à fait générale en science. Quand dans un cas de figure, on a quelque chose qui est défini par une certaine procédure, ben dans un cas plus général, si la même procédure produit quelque chose, on va lui donner le nom generalized, whatever. Donc on va le faire ici. Alors, deux choses ici. D'abord, je vais vous donner opportunity cost of capital égale 15,3 ici. Donc ça, c'est maintenant on va s'intéresser à l'exercice. Est-ce que cet investissement ici, I, 510, 230, 250 et 120, est-ce que c'est un investissement intéressant ou pas? D'accord? Donc pour savoir, on a besoin de sa classe de risque et de la profitabilité des securities dans la même classe de risque. Alors, pour les besoins d'exercice, je vous dis, bah, c'est 15,3. Alors, est-ce que c'est un bon investissement à faire ou pas? Vont venir au tableau, s'il vous plaît. Alors, Clara Dufaux, vous êtes venue déjà? Clara Dufaux et Margot Gazur. De 230 d'abord, c'est la toute première. Donc 230 divisé par, vous l'appelez PV1 peut-être, si ça ne vous ennuie pas, appelez-la PV1, voilà. C'est la valeur présente du premier cash flow futur. Eh bien 1 plus 15,3. Non, non. Plus 15,3, c'est pas 16,3. Ça fait 1,15. Bon, si vous mettez sous la lampe, ouais. Alors. Dans les 200, ça, non ?
Quoi ?
Ouais, 199. Bon, ça, c'est la première valeur présente. La deuxième valeur présente, c'est-à-dire la valeur présente de 250. 250 divisé par quoi ? Ouais, mais attention, c'est pas le tout, c'est le dénominateur seulement qui est au carré. Le dénominateur qui est au carré seulement. Voilà.
l'ordinateur là est au cube. C'est ça ma calculette ? Non, ça va ? Ah oui, oh bah il faut le faire deux ou trois fois, c'est tout. Hein. Je sais pas les cubes. Est-ce que le tout ça vaut le coup ? Bon, largement pas. Voilà. Ceux qui calculent, ça fait combien ? Moins 45, c'est ça ? Voilà, bah c'est parfait. Bon, ça reste, c'est des exercices au tableau, hein, c'est pas très concret. Et c'est quand même ça, merci les mesdames, mesdemoiselles, c'est quand même le comme ça qu'on fait de la finance de base. Et c'est important de bien comprendre d'où ça vient. Ouais, absolument, forcément, d'une manière ou d'une autre. Soit je vous le donne tel quel, soit je vous dis ça se comporte comme telle sécurité sur laquelle on a fait des calculs auparavant. Alors ensuite se pose une question de correction, c'est si vous avez fait une erreur dans la profitabilité de la sécurité et qu'ensuite tous les calculs sont justes, qu'est-ce que je fais ? Ça dépend de mon humeur. Alors, en général, je cherche à vous récupérer. Enfin bon. Le mieux, c'est de bien calculer. Donc, oui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je dois vous donner le opportunity cost of capital. Sinon, ça ne va pas. Alors, il reste un peu de temps. Il y a plusieurs choses à faire. Il reste une demi-heure. Très bien. On va parler un peu des IRR. On va parler un petit peu des IRR, d'une part. Et puis, deuxièmement, on va parler de... Bon, on va faire quelques calculs de probabilité encore. Un peu différents de ceux des D. Alors, quel est l'IRR de celui-là là ? Alors, Valentin Durand et Lysiane Gaume, vous connaissez le tableau. Maintenant, vous essayez de calculer l'IRR de ce truc-là. Ah ouais. En fait, on le fait en faisant des essais. Vous savez que l'IRR, il va être inférieur ou supérieur à 15,3 ? Inférieur, absolument. Donc en fait, le plus simple, c'est que vous essayez 10. Et ensuite, vous ferez une interpolation linéaire. C'est un gros mot, interpolation linéaire. Ouais, avec 10. Oui, au lieu de 15,3, vous faites 10. Et vous vous rappelez, 15,3, vous mettez dans votre tête, 15,3, ça donnait moins 45. Et avec 10, je ne sais pas combien ça fait. Avec 10% de discount, ça fera, j'espère, quelque chose de positif. Mais quand bien même ce serait négatif, ce n'est pas grave, vous pouvez faire traduire une extrapolation linéaire, ça marche aussi. Hein. C'est pas obligatoire que vous entouriez la valeur où ça coupe. Non, maintenant vous faites avec 10. Voilà. Alors là, c'est en gros 207. Non? Oh, 209, pardon. J'ai utilisé l'équation suivante. J'ai utilisé l'équation suivante qui est assez utile. C'est qu'un nombre A divisé par 1 plus epsilon, c'est à peu près A multiplié par 1 moins epsilon. D'accord? C'est pas totalement vrai. Donc j'ai fait 230 divisé par 1,1, c'est à peu près 230 multiplié par 0,9. Vous me suivez? Et 230 multiplié par 0,9, ça fait 216. Au carré. C'est Guillaume, vous? Valentin, pardon, excusez-moi. Ah oui, non. Oui, c'est pas très très précis. Au cube. Excellent. Ça fait 90 ? Bon, donc ça fait combien ça? Ça fait un NPV de combien en tout? NPV, dans ce cas-là. NPV quand on utilise le discount 10%. Combien? Je sais pas. Plus 90. Ah ben on a, oui, je vais l'expliquer. On l'a pris comme ça. On cherche le IRR, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il est inférieur à 15,3. Donc ils essayent un truc au pif. Et puis ensuite, on aura deux valeurs sur la courbe du NPV en fonction de R. On aura deux valeurs. Peut-être même qu'elles encadreront la racine. Peut-être pas, mais peu importe. Ensuite, on fera une interpolation. Oui, absolument. Absolument. Ça fait moins 4? Ça fait 4? Ou moins 4? Bon, c'est pratiquement l'IRR, en gros. Donc l'IRR, c'est pratiquement 10%. C'est un poil moins, c'est 9, quelque chose. D'accord? Merci. Oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour un investissement I qui démarre avec un C0, ensuite C1, C2 et puis C3, puis d'ailleurs c'est vrai avec CN, le NPV, vous vous rappelez, NPV en fonction de R, c'est égal à moins C0 plus C1 divisé par 1 plus R, plus C2 divisé par 1 plus R au carré, plus etc. Et bien ça c'est une courbe, on peut représenter ça comme une courbe, avec R ici et NPV de R là, et cette courbe, elle a cette forme aussi. Elle a cette forme aussi. Donc, on a vu que pour quelque chose qui était ici 15,3%, on avait moins 45. Comme la courbe, elle a cette forme aussi, on sait que l'IRR, il est avant. Et puis, on a d'ailleurs essayé 10,
10. Et puis, pour 10%, on est tombé sur moins 4. Moins 4, c'est bien ça?
Oui.
Bon, donc il n'est pas très loin.
Bon, il y a des cas de figure où vous pouvez créer des courbes qui ont des formes bizarroïdes, mais ça n'a aucune signification financière. D'accord? Pour les investissements simples, il y a un investissement aujourd'hui, puis des cash flows positifs dans l'avenir. Et dans ce cas-là, la courbe, elle a toujours cette forme-là. Donc, on trouve l'IRR par la méthode trial and error, par la méthode des essais. C'est la valeur de R telle que cette formule égale 0. C'est-à-dire que si c'est effectivement le taux de retour qu'il faut appliquer, si c'est le taux de rentabilité qu'il faut appliquer, et bien dans ce cas-là, c'est un investissement qui n'a aucun intérêt. Vous investissez pour recevoir dans l'avenir quelque chose qui a la valeur aujourd'hui, ce que vous investissez. Voilà. Donc si, par exemple, aujourd'hui, vous m'achetez pour 80 euros, Valentin, une promesse quelconque dont on peut démontrer qu'elle vaut 80 euros, ma promesse, et bien dans ce cas-là, votre investissement, il est neutre. D'accord? Alors, quand il s'agit d'un investissement physique, un NPV égale 0, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt parce que dans les investissements physiques, c'est-à-dire ceux où vous investissez dans des outils avec lesquels vous allez travailler d'une manière ou d'une autre, vous voulez un NPV positif. Maintenant, là où la finance est un petit peu compliquée, c'est que dans les investissements financiers, le NPV, il est toujours égal à 0. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué, les manuels de finance, ça les embarrasse tellement qu'ils le mettent en note de pas de page, page 400 en général, ça. Dans un investissement financier, le NPV est toujours égal à 0. Parce qu'en gros, ça limite un peu l'intérêt des investissements financiers. Ça peut se justifier quand même de faire des investissements financiers, mais c'est plus compliqué. Vous faites travailler l'argent. Mais dans un investissement financier, ce que vous achetez avec votre argent, vous avez de l'argent dans la poche. Si vous le gardez dans la poche telle quelle, ça ne sert à rien. Hein? D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui même que Obama dit à l'Amérique, ne mettez pas votre argent dans les matelas. Obama, il a dit ça aux Américains il y a un jour ou deux. Parce que quand vous mettez votre argent dans les matelas, ben, votre argent, il ne travaille pas. Alors, ça a deux désavantages. D'abord, pour vous, d'un point de vue financier, vous gagnez moins que ce que rapportent les bons du Trésor américain. Ceci étant dit, en ce moment, ils rapportent ça. Et deuxièmement, pour l'Amérique, c'est de l'argent qui est sorti du circuit financier. Mais il est sorti tout en étant pas totalement sorti, parce qu'il peut ressortir, si j'ose dire, ou rentrer dans le circuit financier. Mais là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et les théories sont justement pas au point. Les théories ne sont pas au point. Enfin, ce qui est certain, c'est que les calculs financiers qu'on vient de faire là-dessus, sur des valeurs financières, sur des investissements de type financier, où il n'y a pas de synergie avec votre propre activité, ben, c'est un NPV égal à 0. On va vérifier ce calcul-là à la machine. Les choses sur le net, les calculs qu'on a fait aujourd'hui, je les mettrai sur le net. Je crois que je ne peux pas le faire d'ici, je n'ai pas accès à OFTP ici. Mais je ferai ça de chez moi ce soir. Alors, I, c'est celui qui nous intéresse là. Les années, c'est 0, 1, 2, 3. Les cash flows, les cash flows courants, alors 230. 250 et 120, c'est bien ça? Pardon. Le cash flow, le C0, bon, ben c'est 510. Alors, ce qui nous intéresse, c'est present value, la valeur présente des cash flows futurs, d'accord? Où je discount avec un taux quelconque. Discount rate. Je vais mettre pour commencer, mettons, 15%. Puis on essaiera même tout à l'heure 15,3%. Pourquoi pas. Bon, ça, c'est le taux qui m'intéresse. Voyons voir, format, cellule, pourcentage. Donc les present value de ces trois valeurs, c'est égal ça divisé par 1 plus le taux de discount que je fixe à la puissance le nombre d'années. Donc c'est ce que vous aviez obtenu tout à l'heure, il semble, sur les 29. Ensuite, vous avez obtenu 188 et 78. C'est les calculs que vous aviez obtenus, ça, c'est ça? Donc le NPV, bah, il est égal à la somme de ces trois machins, moins la première. D'accord? Tac. Donc c'est bon. C'est à peu près ce qu'on a obtenu, n'est-ce pas? On a obtenu moins 45. Et maintenant, ici, pour obtenir le IR, d'abord on va vérifier avec 10%. Ouais, les calculs étaient impeccables. Et enfin, techniquement, on se met n'importe où. Bon, si je peux faire avec 20%, si je veux, avec n'importe quoi, peu importe. En tout cas, pour trouver le IRR, vous avez outils. Et c'est solver ici, je crois bien. Non, alors attendez. Outils, recherche de valeur cible, je crois que c'est ça. La cellule de formule. Voilà, la cellule de formule, c'est ça. La valeur cible, c'est 0. Et la cellule de variable, c'est ça. On est d'accord? Pas mal. Voilà. L'IRR précis, c'est 9,49. Parce que... voilà. Et on peut vérifier. Si vous mettez donc 10... Ben, alors, vous me demandiez pourquoi on savait que c'était moins que 15. Alors, regardez, à 15, c'est donc bien négatif. D'accord? À 0, à l'inverse, on sait que c'est bien positif. À 5, c'est encore positif. À 10, c'est très légèrement négatif. Donc, on sait que c'est entre 5 et 10. À 9, c'est légèrement positif. Donc, on sait que c'est entre 9 et 10. Et c'est pratiquement au milieu. Parce qu'à 9, j'ai plus 4. Et à 10, j'ai moins 4. Comme c'est pratiquement une courbe qui est droite, bah, c'est au milieu, forcément. Et effectivement, à 9,5, c'est pratiquement ça. Ça, c'est les calculs d'IRR. Alors pourquoi les calculs d'IRR sont intéressants? Parce que souvent, plutôt que de, quand on n'a pas d'idée précise de ce que peut être le taux de le opportunity cost of capital, eh bien dans ce cas-là, on regarde simplement si l'IRR est gros ou pas. Si l'IRR est 30% ou 40%, on peut se dire que si c'est un investissement de risque raisonnable, avec un IRR de 40%, c'est forcément bon. D'accord? Bon, on va terminer avec un petit peu de probabilité de nouveau, parce que je vous rappelle quand même que derrière toutes ces équations, il y a des probabilités. On a dérivé ça, on a dérivé cette équation de la comparaison de deux pièces dans un casino qui avaient des jeux un peu différents, vous vous rappelez? Fundamental equation of finance, which is the cornerstone of discounting and therefore of investment evaluation, of evaluation of investment. Is explained by comparing the prices of two casino games with the same risk behavior. That's what I explained today. Cornerstone
of discounting and therefore of evaluation of investment is explained by comparing the prices of two casino games with the same risk behavior. That's what I spent today explaining to you. If you understand that in two games in a casino which have the same risk behavior must have the same profitability, well, you understand the gist of finance. So I'm going to look at S, which costs today 50 and has the possible future values 40, 50, 60, let's put also 30 and 70, with probabilities 40%, 30%, 10%, let's see, 60, 30, and 10%. Alright? I'm going to look at S like that. And then I'm going to look at T, which costs nothing in particular, I don't know the price, and which has the possible prices in the future 60, 80, 100, 120, 140, with the following probabilities 70%. 10%, 5%, 10%, and 5%. And the risk-free rate equal 5%. Question? Give upper and lower bounds to the price of T. We have enough information here to give an upper and a lower bound to the price of T. Games with the same risk behavior. Cet exemple des jeux de casino, à mon sens, c'est la façon la plus claire d'expliquer la finance. Je peux me tromper, mais il n'y a pas besoin d'être très compliqué. Tout le monde ici comprend très bien que deux jeux de dés dans deux pièces différentes d'un casino doivent avoir le même prix, le même ticket d'entrée. C'est pas possible qu'il y en ait un qui a un ticket d'entrée plus élevé que l'autre. Personne n'ira. Ben, les raisonnements... Et en poussant la logique de ce que je viens d'expliquer, on arrive à cette équation. On arrive à cette équation. Et alors, je viens de fabriquer maintenant un petit exercice où nous avons su toutes les informations nécessaires pour donner une limite supérieure et une limite inférieure au prix pour la sécurité T. Upper and lower je vais changer un petit quelque chose si ça vous ennuie pas, je vais mettre ici 40. Upper and lower bounds, upper and lower bounds to the price of T. J'ai changé un petit quelque chose, le prix de S est 40. Alors, première solution. Quelle est la profitabilité de S? R de S. Ben, la moyenne de S, c'est 50. Je l'ai construit de telle sorte que la moyenne de S, ici, c'est 50. Parce que c'est simplement symétrique par rapport à 50. Les probabilités sont symétriques par rapport à 50. Donc, S, ici, a une moyenne de 50. enfin S, la valeur de S l'année prochaine. Donc la R de S est 50 moins 40 divisé par 40. Ça fait 10 divisé par 40.
Ça fait dans les 25%, ça.
Ça fait 25%. Donc, notre exercice, il nous permet de voir que la profitabilité de S, c'est 25%, et la profitabilité des risk-free bonds, des obligations d'État sans risque, c'est 5%. Et maintenant, ce que je prétends, c'est que T a un comportement aléatoire qui ressemble à celui de S, et plus étroit. Plus étroit. Parce que j'ai pris tout simplement les valeurs possibles de S, multipliées par 2, mais j'ai rendu la distribution de probabilité plus étroite. Donc, en fait, T est moins risqué que S. Il est moins risqué que S. Même si, au lieu d'aller de 30 jusqu'à 70, il va de 60 jusqu'à 140, comparé T au double de S, et vous voyez que T est plus concentré autour de sa valeur moyenne. Donc la P de T est forcément supérieure au double de S, et puis par ailleurs c'est forcément inférieur au prix d'une obligation d'État qui rapporte 100 dans l'avenir, et c'est 95. Donc voilà la réponse à cet exercice. C'est une façon un petit peu plus sophistiquée de raisonner, d'appliquer cette équation qu'il y a là-bas. Et je vous rappelle qu'à l'exercice, je ne sais pas si c'était avec vous, non, il n'y a eu pas d'exercice de ce type avec vous. Mais il y aura des exercices de ce type, ce sera un exercice un peu compliqué de l'examen final, ça. Je vous demanderai, en d'autres termes, dans l'examen final, de voir quels sont, de comparer les comportements de probables de plusieurs securities, en vous aidant largement dans les calculs intermédiaires. Puisque vous vous rappelez que les investisseurs sont risk-averse. Risk-averse, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le risque, et toutes choses égales par ailleurs, ils payeront plus cher pour quelque chose qui a moins de risque. D'accord ? J'ai expliqué d'où ça vient. Ça vient d'une concavité de la courbe d'utilité de l'argent, etc., etc. Donc, on va se voir la semaine prochaine, mardi et mercredi. C'est bien ça ? Mardi après-midi, Sylvie Gaucher a modifié des choses. Quoi ? Ah oui, bon, c'est pas courant. La semaine dernière, c'était l'inverse. C'était moi qui n'étais pas au courant. Je vous annonce que vous avez cours avec moi mardi après-midi, mardi 17 l'après-midi et mercredi 18 le matin. Alors, mon idée, c'est que mardi après-midi, on parlera d'obligations et mercredi matin, on parlera d'argent, monnaie. My pet topic.